Merci à toutes et tous d'être là ce soir. On célèbre, comme chaque année, l'anniversaire du passage de la base Si j'y suis sur le net. Et c'est la 9e année. Voilà, 9 ans qu'on tient sur le net. Et comme chaque fois, chaque année, on vient célébrer ça chez l'ami Hossein, que nous remercions pour son accueil. Je vous rappelle que ici, ce n'est pas un endroit anonyme quelconque, puisque d'abord, Hossein est le génie du lieu dit, et qu'ici, le travail essentiel à vous qui êtes là, c'est de nous écouter, c'est de vous cultiver, bien sûr, mais c'est aussi de boire et de manger. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui sort d'ici ivre-mort, ce n'est pas un pochetron, c'est un militant. Donc, voilà. On va parler de Gaza avec Ronnie Broman, qui nous fait la gentillesse de venir jusqu'à nous et jusqu'à vous. Et j'oublie de vous présenter l'essentiel, c'est évidemment Rosa Moussaoui, qui est journaliste, grande reporter au journal L'Humanité. Elle va m'aider à passer notre ami Ronnie à la question. On en est aujourd'hui bientôt à 4 mois de cette guerre à Gaza, contre les habitants de Gaza, et on en est à 30 000 tonnes de bombes qui sont tombées sur l'enclave de Gaza. 30 000 tonnes de bombes et 30 000 morts, donc ça fait une tonne de bombes par mort. Je voudrais commencer avec deux phrases. L'une a été écrite par un journaliste qui s'appelle Gideon Lévy, qui est un journaliste du Haaretz, et qui est un type tout à fait étonnant, tout à fait courageux, et qui, au lendemain du 7 octobre, le lendemain, le 8 octobre, dans le Haaretz, a écrit « Nous payons le prix de la mise en cage de 2 millions de personnes ». C'était sa réaction. Et une autre phrase que je voudrais citer en ouverture, c'est une phrase du député Jean-Louis Bourlange. Ce n'est pas tout à fait ma sensibilité politique, mais c'est quand même une phrase intéressante où, à l'Assemblée nationale, il a dit, au sujet toujours du 7 octobre, « C'est sans excuse, mais ce n'est pas sans cause ». Alors, on va essayer de donner tort à Emmanuel Valls, qui nous disait que « expliquer, c'est excuser », et on va essayer d'expliquer les choses, de replacer ça dans un certain contexte avec les analyses et le regard de Ronnie Broman. Est-ce que quelque chose t'intéresse dans ce que j'ai dit sur les...
Tout.
Tout. Non, mais est-ce que tu veux réagir sur...
D'abord sur les chiffres, les 30 000 morts et les 30 000 tonnes de bombes. Oui, ça peut paraître un rendement ou une productivité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, extrêmement faible. Enfin, une tonne de ferraille par mort. Mais d'une part, c'est un constat qui a été fait. Il faut des milliers de tonnes de bombes pour faire des milliers de morts. Et il ne faut pas oublier tous ceux qui n'ont pas été comptés comme morts ou comme victimes. Il y a tous ceux qui sont sous les décombres et qui n'ont pas été recensés. Il y a tous ceux qui sont morts secondairement de leurs blessures. Et il y a tous ceux qui restent handicapés ou gravement atteints pour le reste de leur vie. Et ça doit monter quand même dans les... à mon avis, dans les 100 à 120 000 personnes. Donc, à ces 30 000, il faut ajouter déjà les 90 000 blessés qui font 120 000 et probablement plusieurs milliers qui sont sous les décombres ou morts secondairement.
On va présenter succinctement Ronnie Broman, quand même, hein, pour ceux qui ignoreraient qui est Ronnie. Je vais essayer de faire ça court et tu vas me corriger au fur et à mesure. Ronnie Broman est médecin. C'est l'ex-président de Médecins sans frontières. Il est auteur d'un certain nombre de livres qui traitent assez souvent de l'instrumentalisation de l'humanitaire. Je rappelle la qualification de la guerre du Kosovo. La guerre du Kosovo, c'était une guerre humanitaire, hein, si j'ai bonne mémoire.
Il y a eu trois guerres humanitaires, enfin trois guerres considérées comme humanitaires. Je mets des guillemets, évidemment, à humanitaire quand je parle de guerre humanitaire. Mais c'est des guillemets, pas seulement de recul, mais aussi de citation, simplement. La guerre de Somalie en 92, avec l'intervention américano-onusienne qui a... qui était destinée à empêcher, enfin prévenir la mort par famine de centaines de milliers de gens et qui n'a finalement abouti qu'à, enfin, qui a débouché sur un fiasco sanglant et prévu, j'insiste là-dessus, la guerre du Kosovo en 1999 et la guerre de Libye en 2011, qui était elle aussi destinée à prévenir un génocide. Le génocide de Benghazi, ou en tout cas la grande boucherie qui était, paraît-il, promise, alors qu'il n'y avait rien qui permettait de la réaliser. Enfin, donc, c'était notre guerre d'Irak à nous, mais fondée sur l'idée d'un sauvetage d'une population en danger de mort.
Je parle de la Libye.
Je parle de la Libye, oui.
À l'époque, Ronnie Broman, sur la Libye, vous aviez été le premier, je crois, à alerter sur les conséquences, pas seulement pour la Libye, mais sur la possibilité d'une déstabilisation de tout le continent africain, de toute la bande sahélienne. La suite vous a donné raison. Est-ce que aujourd'hui, vous entrevoyez la même chose pour le Proche-Orient, pour le Moyen-Orient ?
Pire. À l'époque, j'avais d'abord, dans un premier temps, mis en garde contre les bobards que l'on nous servait et qui méritent d'être rappelés, simplement juste pour une sorte d'hygiène mentale. On apprend en février 2011 que Kadhafi a lancé son aviation contre des manifestants pacifiques qui défilaient à Tripoli. Et puis, une semaine après, on apprend que des charniers ont été découverts pour un total de 6000 cadavres dans trois charniers, dont un de 1000 corps, un de 2000 corps et un de 3000 corps. Et puis, enfin, on apprend qu'une colonne de chars se dirige vers Benghazi et s'apprête à raser cette ville. Ces trois moments ont été littéralement inventés par la propagande. Il n'y a jamais eu de bombardement aérien des manifestants de Tripoli. D'ailleurs, il n'y avait pas de manifestants à Tripoli. Il n'y a pas eu de charnier. Et il faut noter qu'à une époque où tout le monde a au moins un téléphone dans la poche, c'est-à-dire un appareil photo, je dis au moins parce qu'en Libye, il y a souvent des gens qui en ont deux. Enfin, il y a une profusion d'appareils photo. Il semblerait que personne n'ait eu la présence d'esprit de demander qui avait vu ces avions et ces hélicoptères attaquer des manifestants, qui avait pris ces charniers en photo, c'est quand même assez facile à illustrer, un charnier, et qui avait vu cette colonne de chars qui se dirigeait dans un univers totalement minéral, c'est-à-dire accessible aux innombrables observations satellitaires et marine, puisqu'il y avait la flotte américaine et la flotte française qui croisaient le long de cette côte et qui pouvaient l'observer, qui n'ont pas été à même d'apporter les images d'une colonne de chars sur 1000 km de long sur une route totalement découverte. C'était quand même pas la mer à voir, si j'ose dire, de les photographier. Bref, il y avait une envie de croire qui, aujourd'hui encore, me fait frissonner d'angoisse. C'est-à-dire, quand on a envie de croire, on est prêt à avaler n'importe quel bobard. Ces trois énormes bobards ont conduit à la décision la plus grave qui soit pour un gouvernement, qui est d'entrer en guerre. Et la suite était évidemment prévue. C'était celle qui est réservée aux interventions dites de regime change, hein, de changement de régime, c'est-à-dire la catastrophe avec des pillages d'arsenaux, des armes qui circulent partout, des mercenaires, l'idée que le pouvoir est au bout du fusil et qui est entériné en quelque sorte par une coalition démocratique qui vient soutenir cela. Bref, c'était catastrophique. Là, maintenant je viens à la deuxième partie de votre question, au Proche-Orient, enfin Israël-Palestine. Le conflit israélo-palestinien est très singulier. Il n'est pas comme les autres conflits. Les pro-israéliens ne cessent de rappeler que lorsque un musulman tue un autre musulman, lorsque un arabe tue un arabe, ou lorsque quelqu'un d'autre qu'un israélien ou qu'un juif tue un musulman, tout le monde s'en fiche. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas pour les raisons qu'ils disent. Par exemple, les Rohingyas de Birmanie, qui sont l'objet d'une attaque pratiquement génocidaire de la part du régime bouddhiste intégriste birman, n'intéressent pas grand monde.
Les Ouïghours non plus.
Les Ouïghours en Chine non plus. Effectivement, il n'y a aucune solidarité musulmane. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de solidarité musulmane. La solidarité qui existe avec les Palestiniens, c'est une solidarité anticolonialiste et anti-impérialiste. Et c'est là le déplacement qu'il faut arriver à opérer pour ne pas voir simplement la haine des Juifs s'exprimer à travers l'intérêt que l'on porte aux Palestiniens, mais au contraire une aspiration politique parfaitement décente, parfaitement défendable. Et même s'il y a parmi les défenseurs des Palestiniens des gens qui détestent les Juifs un peu plus qu'ils ne détestent les Arabes, évidemment, ça existe et il faut en tenir compte, il faut les avoir à l'esprit, mais ça n'est pas ça qui explique que de la Chine à la Colombie, en passant par la Russie, de nombreux pays d'Europe et de très nombreux segments de population dans le monde entier, on se sente au moins intéressé et généralement même solidaire avec les Palestiniens, si bien qu'Israël n'a jamais été aussi détesté, aussi rejeté dans le monde qu'aujourd'hui. Mais il y aura un avant et un après Gaza, un martèlement de bombes avec une intensité pareille sur une population entièrement captive, et cela avec le soutien plein et entier, je dirais l'assistance matérielle et symbolique de l'ensemble des démocraties qui se réclament du droit international, du droit humanitaire et des droits humains globalement, ça c'est tout à fait inédit. C'est pour ça que je pense qu'il y aura un avant et un après.
Je vais essayer de continuer à vous présenter Ronnie Bourman. Ronnie Bourman est né en 1950 à Jérusalem. Et je voudrais parler, si tu veux bien, si tu permets, de ton papa. C'est possible ?
Mais c'est oui. Bien sûr, c'est possible.
Le papa de Ronnie Bourman était un grand résistant. Il a été honoré à cause de ses faits de résistance en France. Et il était sioniste. C'était un militant sioniste. Je ne me trompe pas.
Non, non.
Et, en 1948... Il s'est précipité. Il avait été présent auparavant. Hein.
Il était instructeur militaire dans la Haganah, qui était la milice sioniste, donc qui dépendait de l'agent juif, qui était le précurseur de l'armée israélienne. Et au titre de son expérience militaire dans la résistance, il était dans le maquis de la Montagne Noire, dans le sud-ouest. Fort de cette expérience militaire, il avait été nommé instructeur dans un camp près de Marseille. Pour ceux qui voulaient partir combattre en Israël. Donc, entre 1945 et 1948, il était à Marseille, instructeur militaire.
Évidemment qu'en 1948, il s'est installé là-bas. Le plus vite possible. Tu es né 2 ans après à Jérusalem. À l'âge de 5 ans, tu es revenu en France.
C'est ça.
Voilà. Mais, donc, un papa sioniste. Et aujourd'hui, Ronnie Bourman dit... je pense que ce que tu viens d'analyser, d'évoquer là, c'est l'échec du projet sioniste.
Oui, indiscutablement. Ouais, ouais,
donc il y a une relation entre les convictions de ton père et ce à quoi tu es arrivé aujourd'hui.
Il est vrai que la question israélienne, la question israélo-palestinienne ensuite est devenue très présente dans la famille. Mon père parlait bien l'hébreu, il avait vécu assez longtemps en Israël, il avait combattu, il s'était mobilisé pour ce pays. Moi, j'ai été assez longtemps sioniste, avec quelques variations. Quand j'étais gauchiste, évidemment, je ne pouvais plus être sioniste, mais j'étais un anti-sioniste de façade, disons, je n'étais pas vraiment convaincu.
Quand tu étais maoïste.
Voilà, quand j'étais à la gauche prolétarienne. Et c'est en 89 que j'ai rompu 89-90, que j'ai rompu avec le sionisme du fait d'une conjonction de choses qui étaient à la fois l'intifada, c'était le premier, parce que je ne croyais pas vraiment à l'existence des Palestiniens, enfin, c'était une question floue et, disons, discutable dans ma tête, j'ai évité de la discuter, mais elle était à l'état flottant dans mon esprit, et l'intifada a permis, en quelque sorte, de cristalliser l'existence des Palestiniens, de la manifester sous une forme extrêmement présente, extrêmement forte. Une jeunesse qui se battait contre des soldats israéliens à coups de pierre. D'abord, moi, par instinct, j'étais du côté de cette jeunesse. Et puis ensuite, par réflexion, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là qui se passe. Ils se révoltent au nom d'une volonté d'émancipation nationale que j'ignorais totalement jusqu'à là. Donc l'intifada a été vraiment pour moi une petite révolution intellectuelle. Et puis il y en a eu deux autres, qui étaient la chute de l'Empire soviétique, donc la chute du régime soviétique, donc la chute de toute possibilité de déguisement derrière un masque qui pouvait être celui de la propagande, créant des Palestiniens pour embêter les Israéliens qui étaient pro-occidentaux, enfin des choses comme ça, disons, la guerre froide ne pouvait plus faire irruption sur ce théâtre-là, puisqu'elle était plus elle n'existait plus. Et puis enfin, troisième chose, c'est pas dans l'ordre, hein, tout ça est très mélangé, un film, se trouve que c'est un cousin à moi, Eyal Sivan, qui l'a fait, un film qui s'appelle Iskor, les esclaves de la mémoire. Et au moment où on a reprojeté Shoah hier soir, au moment où on commémore la libération d'Auschwitz, le 27 janvier, qui est la libération des camps, cette notion de mémoire et des usages extrêmement violents, ou en tout cas extrêmement politiques, que l'on peut faire de celle-ci, me semble être vraiment d'actualité. Et depuis 89-90, en effet, le rideau s'est en quelque sorte déchiré. Je ne suis plus un adepte du sionisme.
Ce qu'évoque le film d'Eyal Sevan, et que tu évoques aussi de temps en temps, c'est Yeshaou Leibovitch.
Oui.
C'est extraordinaire.
Qui était sioniste, par ailleurs,
Leibovitch. Qui était sioniste, mais qui avait des positions... déjà à l'époque, qui scandalisait tout le monde. On l'appelait la mauvaise conscience d'Israël. Et aujourd'hui, il sera encore plus choquant qu'il ne l'était à l'époque.
C'était quelqu'un vraiment de humainement et politiquement extrêmement impressionnant et tout à fait admirable, et qui a tout de suite compris le piège mortel de la colonisation des territoires conquis la suite de la guerre des Six Jours. C'était ça. Donc, il était pour l'existence d'un foyer juif, d'une nation juive en Palestine, mais d'une nation négociée, et il était d'une clairvoyance totale sur la dérive dans laquelle allait s'engager Israël du fait de la colonisation des territoires conquis par la force. Et c'est lui qui, le premier, je crois, a introduit l'expression « judéo-nazi ». Pour désigner une pratique, pour désigner quelque chose qui l'avait profondément choqué, c'est-à-dire des soldats israéliens en train de sortir d'une salle d'opération, une femme en train d'accoucher ou de subir une césarienne, je ne me souviens plus, enfin disons un geste médical, peu importe lequel, et ce geste médical interrompu par des soldats, sans aucune raison militaire, sans aucune raison de défense de soi, était qualifié par Leibovitch de judéo-nazi. Et puis pas en passant, mais à sa manière, ceux qui connaissent Leibovitch l'imaginent, enfin, avec l'insistance, il le disait avec tout son corps.
Oui, tout à fait.
Sur le 7 octobre, on sait aujourd'hui de nombreux éléments sont à notre disposition sur le fait que l'armée israélienne et peut-être aussi l'échelon politique, peut-être même Netanyahou, étaient au courant qu'une attaque de très grande ampleur se préparait à Gaza par le Hamas. Il y a eu des alertes égyptiennes, il y a eu aussi ce manuel, entre guillemets, du Hamas que les services de renseignement de l'armée israélienne ont eu entre les mains. Une officière, je ne sais pas comment dire, une militaire israélienne officier a alerté ses supérieurs et elle s'est vue rétorquer « Nous ne voulons plus entendre parler de ces débilités. Si vous continuez à en parler, ce sera la cour martiale. » Alors, comment expliquer que ces alertes n'aient pas été prises en considération ?
Moi, j'y vois tout d'abord la manifestation, y compris à contresens ou dans un sens inattendu, mais tout à fait réel pour moi, du mépris colonial, de l'invisibilité du colonisé par le colon. Les Israéliens, et surtout les Israéliens, disons, de la nomenclature ou de la haute administration militaire et politique...
J'allais dire apparatchik.
Oui. Ces Israéliens n'ont pour les populations qui de fait sont sous un joug colonial que mépris. La colonisation va avec le mépris. Et le mépris va avec la sous-estimation des capacités de celui que l'on méprise. Donc il me semble que c'est l'explication la plus économe en hypothèse et la plus plausible, celle qui colle le mieux à une certaine forme de raisonnement en Israël. À cela, il faut rajouter sans doute un mépris machiste. Les deux officiers de renseignement qui étaient à Ashdod, je crois, et qui observaient la bande de Gaza sur le plan professionnel, parce que c'était leur métier, elles faisaient du renseignement militaire. Ces deux officiers avaient effectivement prévu, enfin en tout cas reconstitué, à partir des éléments d'observation qu'elles avaient accumulés au cours de cette dernière année, parce que c'était une histoire assez longue. Elles avaient en quelque sorte prévu, réussi à anticiper cette attaque à partir des éléments d'entraînement, d'observation qu'elles avaient glanés tout au long de cette période d'observation. Mais elles se sont fait rembarrer par une hiérarchie Et je pense que c'est un... Enfin, le virilisme et le machisme, ça va aussi très bien avec l'esprit colonial, conquérant, dominateur, etc. Donc il me semble, enfin c'est comme ça que moi j'ai interprété la chose, il me semble que c'était un pur, enfin d'abord un acte de sexisme ou de machisme, dans la mesure où elles étaient renvoyées à leur statut d'enregistrement passif de ce qui se passe, et qu'elle devait laisser l'analyse et la compréhension de la grande affaire à leurs supérieurs, qui étaient évidemment des hommes. Donc on peut dire qu'en Israël, le féminisme a réussi à s'introduire dans l'armée parce que les femmes font leur service. Enfin, ça a des limites, ce genre de progrès.
Mais c'est assez troublant, ce document. J'ajoute qu'il détaillait par le menu vraiment ce qu'allait être l'attaque du 7 octobre avec les parapentes, les prises d'otages, la prise de contrôle des postes militaires... C'est extrêmement détaillé.
Elle avait vu effectivement les ULM, les motards, un certain nombre d'exercices. Donc, il me semble que, d'un point de vue militaire, c'était pas totalement mystérieux ce qui allait se passer. Simplement, c'était du don d'Asphol. Ça, c'était le côté inattendu. Et je pense que pour les Israéliens, audace et palestiniens, ça va pas ensemble. C'était pas possible.
Mais on a quand même beaucoup dit, quelqu'un comme Charles Anderlin et d'autres ont souligné le fait que depuis de longues années, il y a eu tout un soutien pour faire exister le Hamas, pour faire exister cet adversaire-là. Hein. Netanyahou, dit-on, a fait financer même le Hamas. Qu'est-ce que tu penses? C'est un complot? C'est du complotisme de dire ça?
Ah, c'est factuel. Ou bien c'est... Non, voilà. C'est factuel. C'est le... Là, en septembre dernier, il y avait à Doha, au Qatar, une réunion à laquelle participait le patron du Mossad pour clarifier le fait que le soutien financier du Qatar au Hamas devait continuer. D'ailleurs, les valises de billets qui transitaient par Ashkelon, avant de passer la frontière à Erez et rentrer dans la bande de Gaza, étaient... accompagné, protégé par des officiers israéliens. Non, non, il n'y a absolument rien de complotiste, c'est assumé, c'est public, c'est connu. Mais justement, ça fait partie du plan. Netanyahou entretenait le Hamas pour disqualifier l'autorité palestinienne, qui par ailleurs travaillait activement à s'auto-disqualifier, donc ça ne pouvait que, en effet, marcher. Et avec le Hamas, il y avait une sorte de paix armée, qui fonctionnait pas mal. Il y avait, par exemple, une classe moyenne relativement opulente. Il y avait des endroits extrêmement... On a du mal à l'imaginer, mais il y avait des endroits très agréables à Gaza. Mmh, mmh. Des endroits sympas, des restos sur mer où on mangeait des fruits de mer. Enfin, ça n'était pas qu'un camp de misère. Il y avait à peu près 80% de gens qui étaient dans la misère, mais dans une misère qui se maintenait à flot. Il y avait juste assez, comme le disaient les gamins Olmert, il n'y aura pas de famine, mais ils auront un peu faim, ils vont maigrir. C'est comme ça qu'ils concevaient la relation avec Gaza. Et par ailleurs, comme dans toute situation de conflit, il y avait des gens qui s'en sortaient très bien.
On évoquait tout à l'heure le cynisme de Netanyahou. Les attaques du 7 octobre, elles interviennent dans un contexte politique interne à Israël extrêmement tendu. Il jouait sa survie politique avec des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestaient contre sa réforme judiciaire, une réforme qui démantelait complètement l'état de droit. Est-ce qu'on peut imaginer que, à la faveur de cette guerre conduite contre le peuple de Gaza, il puisse en sortir encore une fois, Benjamin Netanyahou?
Non, non. Je reprends un point. Parler d'état de droit pour Israël, ça me paraît excessif.
Un peu abusif, oui.
C'est y a état de droit pour les Juifs, oui. Mais dans un pays d'apartheid, l'état de droit, par définition, n'existe pas. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que malgré toute la sympathie qu'on peut éprouver pour les gens qui étaient dans la rue et se battaient contre ce type qui est effectivement tellement... antipathique, je veux dire, sur le plan politique, je m'en fiche de son éventuelle sympathie humaine, mais qui est évidemment une sorte de repoussoir politique. On se sent plus proche des manifestants, et c'est mon cas également, que de ceux d'en face, c'est sûr.
En tout cas, cette réforme, elle torpillait l'indépendance de la justice, et c'est à ça aussi que s'accroche Netanyahou.
C'est ça, il s'agissait d'affirmer que le vote, un vote majoritaire, doit être appliquée, quel que soit le contenu de ce vote. La Cour suprême n'ayant rien à opposer à un vote au nom de l'esprit démocratique.
C'est-à-dire ce qu'on appelle les nouvelles colonies, par exemple.
Voilà, par exemple. Aujourd'hui, si les élections avaient lieu, apparemment, la coalition au pouvoir passerait de 64 à 44 sièges. Elle perdrait une vingtaine de sièges, selon les derniers sondages dont j'ai pu prendre connaissance. Donc il y a en effet une protestation contre Netanyahou et son alliance, mais un soutien qui ne se dément pas à la guerre qui est menée contre les Palestiniens à Gaza.
Ce qui s'est passé avec le 7 octobre, c'est que ça faisait déjà un certain temps que la question palestinienne n'intéressait plus grand monde. Hein. Ça passait un peu au deuxième, sinon au troisième plan. Et soudain, c'est revenu en première ligne, en premier plan, et tout le monde ne parle plus que de ça. Et puis on a vu réapparaître des gens qui disaient « Ah mais j'ai la solution !»« Ah bon ? Oui, la solution c'est deux États. » Des gens qui n'avaient pas parlé depuis 10 ans ou 20 ans. Deux États, puis d'autres qui disaient « Ah mais non, mais la solution c'est un État binational. » Alors toi, je sais que depuis longtemps, tu optais plutôt pour une solution binationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'applicable dans l'une ou l'autre de ces solutions ou de ces hypothèses ou de ces perspectives étant donné l'état de cette région?
Comme pour donner raison au Hamas, d'un seul coup, on reparle politique, on reparle droits nationaux des Palestiniens, alors que jusqu'au 6 octobre dernier, tout le monde considérait que la question palestinienne était révolue. On en venait professer une certaine admiration pour Trump, qui avait été le parrain des accords d'Abraham, lesquels, nous disait-on, signaient en quelque sorte la paix entre Israël et les pays arabes. On oubliait de préciser qu'Israël n'était pas en guerre avec les pays arabes et que tous les pays qui ont signé les accords d'Abraham étaient en paix avec Israël. Simplement, il n'y avait pas de reconnaissance. Et donc là, il y avait une reconnaissance qui se faisait sur le dos des Palestiniens, puisque le tabou jusqu'alors, le tabou de la reconnaissance, c'était qu'on ne pouvait pas nouer des relations diplomatiques avec Israël tant que la question palestinienne n'était pas réglée, donc tant qu'un État palestinien ne voyait pas le jour. Ça, c'est important à rappeler, parce que ça montre quand même un certain manque de clairvoyance ou une certaine confiance dans la parole des gouvernements au détriment de la parole des sociétés et des populations. Pour ce qui est des deux propositions politiques, qu'ils ont un État binational ou deux États, je pense que la question des deux États est totalement fictive. C'est une proposition qui avait ses mérites, mais qui est morte et enterrée du fait de la colonisation.
600 000 ou 700 000...
Voilà, 700 000 colons, peut-être 750 000, on ne sait pas très bien. Il y en avait 120 000 au début des accords d'Oslo.
C'est ça.
Il y en a plus de 700 000 aujourd'hui. Les accords d'Oslo ont été un accélérateur de colonisation. Le dévoiement des accords d'Oslo, même s'ils étaient loin d'être parfaits, moi j'étais très sceptique déjà à l'époque, mais bon, il y avait quand même une dynamique, un mouvement qu'il fallait saluer.
On est moins intransigeant aujourd'hui, hein.
Oui, on trouve que c'est une belle époque, hein, c'est sûr, c'est absolument.
Ouais.
Mais en tout cas, ils ont été enterrés, et ils ont été enterrés par tous. C'était un enterrement consensuel, pas unanime, mais largement consensuel. Donc, il ne faut pas venir aujourd'hui parler de droits humanitaires quand il y a une bombe qui tombe au mauvais endroit, enfin, sur des civils, parce que le droit humanitaire, il s'appliquait tout aussi bien à la colonisation, mais là, il n'était pas invoqué. On parlait, chaque fois que le gouvernement israélien annonçait l'ouverture d'un programme de nouveaux logements, 1000 logements ici, 1500 là, on déplace quelques populations, on fait le boulot colonial d'implantation de populations que les autorités israéliennes encouragent. Et à cela, les garants du droit international humanitaire, du droit international tout court, n'opposent qu'une sorte de mise en garde contre la mise en péril d'un processus de paix, d'un processus de négociation. Processus de paix qui n'existait pas, négociation qui n'existait pas, mais dont on disait qu'il fallait les protéger quand même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de langue de coton odieuse qui a prévalu pendant toute cette période, à la faveur de laquelle les Israéliens ont quadruplé, quintuplé leur présence et continuent de le faire là en Cisjordanie. Donc, exit les deux États. Qu'est-ce qui reste ? Il reste soit rien, le statu quo, c'est-à-dire la guerre permanente, ou un système dans lequel tous les habitants, tous les résidents entre le Jourdain et la Méditerranée
se
voient reconnaître des droits égaux. Non, j'ai pas dit se mélange. Se voient reconnaître des droits égaux. Avant qu'ils se mélangent...
Il y a du temps qui passera.
Oui, ouais. il va y avoir du temps.
C'est la conviction aussi de Shlomo Sand, hein. L'historien Shlomo Sand, qui travaille depuis très très longtemps là-dessus, a fini par considérer, c'était pas du tout son point de vue, mais ces dernières années, que la solution était l'État binational, ce que tu décris là.
Mais oui, parce que tout Premier ministre qui décréterait que les colonies doivent être démantelées, il est vrai, je ne sais plus qui disait, des colonies, ça se démantèle. Bon, oui, ça se démantèle. Mais à quel prix ? Au prix du suicide du Premier ministre, au prix d'une guerre civile, que personne ne voudra. Aucun Premier ministre ne prendra le risque pour lui-même de faire ce que Rabin a fait, c'est-à-dire une ébauche de processus de paix, de discussion, je ne dis même pas égalitaire, mais de discussion respectueuse avec les Palestiniens. On sait que c'est signé son arrêt de mort. Parce que les gens qui ont tué Rabin, qui ont commandité, qui ont voulu l'assassinat...
Ils sont au pouvoir aujourd'hui.
Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et je rappelle que... Parce que ça, c'est... Dans le film d'Amos Gitaï, l'assassinat de Rabin, qui montre qu'il s'agit plutôt d'un complot, que Yigal Amir n'a pas agi seul, qu'il y avait d'autres forces, ce qui me semble l'évidence même. Il n'a pas vu les mesures sécuritaires prises par la police israélienne. Il est impensable que Yigal Amir n'ait pas bénéficié de solides complicités à l'intérieur de la police. Mais ce que je voulais dire,
Il avait le soutien à l'époque, aussi bien de Netanyahou que de Sharon, hein, qui était en campagne contre...
Oui. Mais justement, il y a une image fugitive dans le film de Amos Gitaï, que j'ai pu ensuite revoir un peu plus longuement il n'y a pas très longtemps, une image qui montre Netanyahou en train de tenir un meeting électoral
sur un balcon
à Jérusalem.
Ouais,
balcon.
Tout à fait.
Sur ce balcon sont accrochées deux banderoles. L'une représente Rabin affublé d'un uniforme SS,
nazi, ouais.
Donc une cible légitime en plus, parce que qu'est-ce qu'on fait avec un SS ? On le tue. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à faire avec un type comme ça. Donc déjà, une invitation à tuer. Et de l'autre côté, au cas où on n'aurait pas très bien compris le message global, il y avait écrit « Mort aux Arabes », en hébreu et en anglais. Au cas où ça échapperait à quelqu'un, il fallait que ce soit écrit également « Mort aux Arabes ». Il y a 20% de la population israélienne qui est arabe, qui est palestinienne. Et ça, c'est en 1995. Donc il ne faut pas s'étonner de cette explosion de violence d'aujourd'hui qui ne pouvait aboutir ailleurs.
Sur cette violence, ceux que vous décrivez, ces fanatiques qui entourent aujourd'hui Netanyahou au pouvoir ne veulent ni d'une solution à deux États, ni d'un État binational. Ils étaient réunis à Jérusalem il y a quelques jours pour appeler à la recolonisation de Gaza. Qu'est-ce que ça voudrait dire, cette recolonisation ? Il y a aussi tous les appels à expulser les Gazaouis vers l'Égypte, à expulser les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie. Est-ce qu'on est devant une nouvelle Nakba ?
Oui. D'ailleurs, ce terme Nakba, qui était banni, honni par les Israéliens en général, est aujourd'hui réintroduit dans le vocabulaire, dans le lexique politique israélien, mais sous un angle positif. C'est-à-dire, Nakba, c'est en gros catastrophe, quoi. C'est la Shoah palestinienne. Eh bien, ils veulent cette Shoah palestinienne, mais le reproche qu'ils lui font, c'est non pas d'avoir existé, mais c'est de ne pas être allé jusqu'au bout. Donc il faut terminer le boulot. Et c'est quand même le tiers du gouvernement israélien qui assistait à cette réunion où on planifiait la disparition des non pas seulement des Gazaouis, mais des Palestiniens en général, parce que l'expulsion des Gazaouis de la bande de Gaza, c'est une chose, mais ça va de pair avec l'expulsion des Palestiniens de Cisjordanie. C'est le règlement définitif du problème palestinien façon les alliés de Netanyahou.
Israël accuse aujourd'hui des employés de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens. Elle les accuse d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre. On parle de 12 employés sur les 13 000 qui travaillent, sur les 13 000 de l'UNRWA qui travaillent à Gaza. Ils ont été immédiatement licenciés. Une enquête est ouverte par l'ONU et pourtant toute une série d'États, de gros donateurs ont annoncé qu'ils suspendaient leur aide à cette agence onusienne. C'est le cas aussi de la France. Quelles vont être d'abord les conséquences pour Gaza? Et puis cette agence, elle n'intervient pas seulement à Gaza, elle intervient en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés palestiniens, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Quelles vont être les conséquences de l'assèchement des ressources de cette agence dans le contexte de présent de guerre?
C'est révoltant et c'est irresponsable, totalement irresponsable, pour les raisons que vous venez de dire. Il y a des camps palestiniens en Jordanie, en Syrie, au Liban.
C'est 6 millions de personnes au total.
Voilà, c'est un peu plus de 6 millions de personnes. 30 000 fonctionnaires de l'UNRWA sont à pied d'œuvre pour assurer la santé, l'éducation, les affaires courantes en fait d'une vie sociale qui vont s'effondrer totalement si l'UNRWA n'a plus de quoi assurer ce fonctionnement. Donc c'est totalement irresponsable, c'est inhumain, c'est irresponsable. Et c'est révoltant également d'abord parce que les Israéliens qui examinent le dossier de chaque Palestinien recruté par l'UNRWA savaient très bien que ces gens-là éventuellement soutenaient le Hamas. Moi, je n'en sais rien. Je suis personnellement, comme on peut s'en douter, assez, en recul. Quand un belligérant en général raconte quelque chose, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais supposons, ça veut dire que les Palestiniens n'ont trouvé que 1 pour 1000 de soutien au Hamas. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Et on ne sait même pas quelle forme de soutien. Soutien logistique, participation aux attaques. Est-ce que, par exemple, ce sont des gens qui auraient participé aux attaques sur les postes militaires et policiers israéliens? Si c'est le cas, ce sont des résistants sous la forme la plus respectable et la plus décente qui soit. Un peuple opprimé, occupé, a le droit, reconnu par tous, de prendre les armes et de se révolter contre
les cibles militaires ou
policières.
Voilà,
donc c'est ce que je dis. S'ils avaient... On ne sait pas quelle est l'accusation précise qui est portée contre ces 12 ou 13, je ne sais plus. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, on ne voit les choses que d'une façon totalement asymétrique, parce qu'il est évident qu'il y a un certain nombre de soldats israéliens qui ont commis des atrocités et des exactions. Qui va les arrêter ? Je trouve que la réaction de l'UNRWA, qui est très compréhensible, c'est-à-dire de licencier ces douze-là, elle est compréhensible parce qu'il y a une nécessité de se préserver. Il faut sauver cette institution parce qu'elle est effectivement menacée, et elle l'est d'ailleurs depuis des années et des années. Hein. Israël a l'UNRWA dans le collimateur, parce que comme l'ont dit un certain nombre d'observateurs, l'UNRWA, c'est la mauvaise conscience d'Israël. C'est le rappel constant qu'il y a eu des expulsions et des réfugiés, et que ces réfugiés, c'est qu'on s'est installé à la place de ces réfugiés. Quand même que... on n'entend pas assez le fait que s'il y a une guerre, il y a des atrocités qui ont été commises des deux côtés et qu'un certain nombre d'Israéliens devraient aussi comparaître. Mais arrêté par qui? Là, évidemment, on ne le voit pas.
Je vous remercie. Ronnie Broman.